Radio Okapi.
Les FARDC ont enclenché une opération contre les présumés rebelles M23 à partir de Rougari dans le Rutshuru au Nord Kivu. Une situation qui a mis la population dans la psychose. Du coup, les activités sont paralysées à Rougari Centre. Malgré la publication de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers à Lubumbashi, de longues files de véhicules sont de nouveau constatées devant les stations-service. Il y a insuffisance des stocks, les automobilistes ne comprennent rien. Programme de développement des 145 territoires de la RDC pour sa réussite, le député national Jean-Olive Moudé-Kereza plaide pour la mise en place d'un comité local de suivi composé, selon lui, des autorités coutumières, des associations de jeunes et des femmes ainsi que de la FEC. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, une psychose s'observe à Rougari Centre ce mercredi. C'est à environ 35 km au nord de Goma, dans les territoires de Rutshuru. À la base, une opération offensive enclenchée par les FARDC à partir de Rougari Centre contre les présumés rebelles du M23 qui ont attaqué depuis deux jours les positions de Nyesisi et Ngugo à 13 km au nord-est de Rougari. Du coup, toutes les activités sont paralysées à Rougari Centre. Denise Loukesso est dans la région. Elle nous décrit la situation.
Les FARDC ont lancé depuis 9h ce mercredi une contre-offensive à partir de Rougari Centre. C'est dans le but de déloger les assaillants qui se seraient retranchés vers Ngugo. Ce, après l'attaque lundi dernier vers 22h du village Nyesisi par les rebelles qu'on croit les combattants du M23. L'attaque qui aurait fait des victimes et des blessés dans le rang de l'armée et le déplacement massif des populations d'au moins 7 villages riverains du parc selon les sources locales. C'est notamment le village Nyesisi, Ruanga, Ngugo, Ndondi, Mugwata, Butaka et une partie de Kigarama. Les habitants ont fui les uns vers la paroisse catholique de Rougari, alors que les autres ont trouvé refuge à Kabaya et Kanombe. Le chef de groupement de Rougari parle d'une situation confuse. Toutes les activités sont paralysées à Rougari Centre. Les écoles ont dû retourner les élèves à la maison et le trafic routier Goma-Rutshuru est de temps en temps interrompu à partir de Rougari Centre au moment où les FARDC lance des tirs selon nos sources. La population de Rougari, elle, est dans une alerte et craint que la situation ne dégénère à des éventuels affrontements. Depuis Rougari Centre, dans les Rutshuru, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Et puis, une nouvelle tension observée depuis ce matin dans certains coins de la commune de Moulekira, en ville de Beni. Des groupes de jeunes qui tentent une nouvelle fois de manifester contre l'état de siège font face aux forces de défense et de sécurité. Martial Papi Moukeba.
L'épicentre de cette nouvelle tension est le quartier Kalinda, situé au sud-ouest de la ville de Beni. Tôt le matin, des groupes de jeunes ont érigé des barricades sur certaines rues et avenues pour empêcher la circulation. C'est le cas de la rue principale, ouvrant la voie sur les centres commerciaux et les marchés de ma campagne à partir du rond-point Katoto. Là, il y a eu des échauffourées entre ces jeunes et les forces de l'ordre qui tentaient de dégager la voie. La moto d'un policier a été incendiée alors que des coups de feu ont été attendus dans les quartiers pendant quelques heures. Conséquence, toutes les activités socio-économiques sont bloquées dans cette partie de la ville. Certains élèves qui tentaient de se rendre à l'école ce matin se sont vus enlever leurs uniformes par les manifestants. La police, qui n'a pas jusque-là fait le bilan de ces manifestations sporadiques, s'est dit à pied d'œuvre pour établir l'ordre public dans les quartiers Kalinda. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
En Ituri, environ 13 000 familles de retournées des commandas éprouvent des difficultés pour accéder à leurs champs et s'approvisionner en produits agricoles. En cause, la présence des hommes en armes identifiés aux présumés rebelles des ADF. La société civile locale craint que cette situation ne soit à la base d'une crise alimentaire dans la région. Elle appelle à une intervention des autorités. L'administrateur militaire du territoire, Dirumu, demande à ces familles d'être patientes. L'armée est en train de prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation. Marcel Kiza, Biamou.
C'est depuis environ 2 mois que les premières familles des retournés sont arrivées à Komanda Centre et au village environnant, notamment à Kibonge et Baïdi, après avoir fui les attaques de bas, se rendre dans leur champ situé du côté est de Komanda pour chercher à manger. Ceux qui s'y risquent sont parfois victimes des exactions de ZADF. Kakani Tandishabo indique qu'il y a une semaine, 3 personnes d'une même famille sont tombées aux mains de ces rebelles alors qu'elles se rendaient au champ. Il demande aux autorités de déployer des militaires dans cette zone.
Ils n'ont pas l'accès d'aller au champ. Leur champ se retrouve là où le prisonnier ADF qui continue à se voir vers ce côté-là.
Contactez l'administrateur militaire du territoire du Romo, reconnaît cette situation. Le colonel Jean-Siro Simba indique que des dispositions sont en train d'être prises avec l'armée pour faire face à ces problèmes.
C'est question de quelques jours, la situation sera décantée. On est en train de peaufiner ces stratégies ensemble avec les communautés. C'est les coordonnateurs des opérations.
Notons que ces familles sont retournées dans leurs milliers à la demande des autorités après l'accalmie observée à Komanda depuis plusieurs mois déjà. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, sur Kivu, 269 réfugiés burundais, soit 78 maisons du ménage du camp de Lucinda en territoire de Fizi, ont été rapatriés ce mercredi vers leur pays d'origine, le Burundi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés, a convoyé les camions transportant ces réfugiés jusqu'à la frontière congolaise de Kamvivira avant de les remettre à la Direction générale du rapatriement, réinsertion et réinstallation du Burundi. Il s'agit d'un premier convoi de l'année 2022, Fiston Goma.
Plus d'une dizaine de véhicules transportant ces réfugiés burundais traversent la frontière de Gatumba. Les 2 premières personnes à fouler le sol de leur terre, plus de 5 ans après les refuges en RDC, ne cachent pas leur satisfaction. Aussitôt accueillis par les autorités burundaises, ces rapatriés vont transiter au centre de Gihanga, à 7 km de la frontière, où ils passeront 48 heures pour les formalités d'usage et la remise de paquets retour, avant d'être convoyé dans leur milieu d'origine à l'intérieur du Burundi. Nestor Bimenimana est directeur général de DGRRR Burundi.
Le gouvernement du Burundi a très bien préparé pour accueillir ses citoyens. Au mois de novembre 2021, nous avons été en mission à Rusinda et à Murungwe, dans les camps des réfugiés burundais. Nous avons constaté ensemble qu'ils ont le soif de rentrer dans leur pays natal. Nous disons merci au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a vraiment senti ses larmes des réfugiés burundais qui voulaient rentrer au pays.
Pour l'officier de protection du HCR à Baraka en territoire de Fizi, 15 000 réfugiés burundais candidats au retour volontaire ont été enregistrés. Ils seront rapatriés au cours de cette année si les contextes sécuritaires et sanitaires le permettent, a précisé Jean Syriac Graoua. D'Ouvira Fiston Mamayaba, la Radio Kapi.
Et puis, cette bonne nouvelle pour la population du Maniema. Bientôt, tous les militaires se trouvant dans les différentes barrières au point chaud d'entrée de la ville de Kindu seront retirés de ces barrières. Décision prise par le gouverneur en intérim dans son message officiel du 21 janvier dernier, adressé au commissaire provincial de l'Intérieur pour mettre fin aux tracasseries militaires dont sont victimes les paisibles populations. Florence Kizalunga.
Selon le message du gouverneur intérimaire, cette mesure du retrait de ces militaires dans les différentes barrières concerne les axes ci-après. Kindu Dingi, Kindu Kasongo, Muyengo Punya Lubutu et Kindu Kibombo. Maxime Kasea, porte-parole du gouverneur intérimaire, explique les bien fondés de cette décision.
L'objectif de cette instruction est de mettre fin aux tracasseries, une pratique courante dans différentes barrières, et permettre à la population de circuler librement. Dans le même message, l'autorité provinciale recommande c'est que tous les militaires qui étaient dans ces barrières-là puissent être retournés dans leurs bases respectives. Et en cas de récalcitrance, l'auditeur supérieur se saisira de tous ces cas-là pour prendre des mesures judiciaires appropriées.
Mesures saluées par les usagers de ces axes. L'un d'eux s'exprime.
Je suis très heureux. C'est une décision responsable que le gouverneur vient de prendre. Ça va nous soulager parce que dans chaque barrière, il faut donner la ration militaire. 8 barrières, c'est beaucoup d'argent pour nous. Si vous ne voulez pas qu'on puisse fier votre bagage, vous devez donner de l'argent. Et là, c'était un manque à gagner pour nous. Et cette décision, ça va nous amener vraiment à avancer dans nos activités économiques.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Après les zones d'approvisionnement Est et Sud en carburant, le week-end dernier, le ministère de l'Économie nationale a publié ce mardi la nouvelle structure des prix des produits pétroliers pour la zone Ouest, dont la ville de Kinshasa. Cette nouvelle tarification revoit à la hausse les prix. Ainsi, le litre d'essence va désormais coûter 2095 francs congolais. Le litre de gasoil revient à 2085 francs et 1700 francs pour le litre du pétrole. Le litre du jet A1 pour les carburants d'avion va coûter 1575,43 francs congolais. Pendant ce temps, à Lubumbashi, de longues files de véhicules sont de nouveau constatées devant les stations-service. Les automobilistes disent ne rien comprendre car il n'y a pas longtemps, le gouvernement avait publié la nouvelle structure des prix. Les pétroliers, pour leur part, évoquent plusieurs raisons, dont l'insuffisance des stocks. Jean Gandou.
Ce mercredi matin, les automobilistes étaient surpris de constater que certaines stations-service sont fermées de nouveau, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Au même moment, des longues files de véhicules sont constatées devant les stations-service qui vendent les carburants, où des scènes de bousculade sont aussi observées. Contacté, le président provincial des pétroliers indique que la plupart des sociétés pétrolières ont des stocks insuffisants. D'après Joseph Tuité, sur le plan international, le prix du baril de pétrole tend vers 90 $, alors que pendant le temps fort de la pandémie, le baril était à environ 20 $ américains et la tendance est à la hausse. Sur le plan local, Joseph Tuité indique que toutes les sociétés pétrolières connaissent le problème des trésoreries à cause notamment du manque à gagner et de pertes qu'elles enregistrent du fait du gel des prix imposés par le gouvernement et qui ne sont toujours pas payés, ce qui fait que toutes ces entreprises ont du mal à passer de nouvelles commandes. Et sur le terrain, la population se retrouve confrontée au même problème qu'il y a une semaine, notamment la révision à la hausse du prix des transports en commun. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province de la Lomami, suspension le week-end dernier du sous-proved de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Vunaï dans les territoires de Kabinda. Plusieurs griefs sont portés à charge du sous-proved, dont notamment l'attribution de faux arrêtés à certaines écoles déjà existantes dans la sous-division de Loudimbi, Loukoula et la signature illégale de désaffectation d'un préfet ainsi que d'un directeur des études, prérogative dévolue au directeur provincial de l'EPST. Contacté, l'incriminé s'est réservé de tout commentaire. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon le procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire signé par les directeurs provinciaux de l'EPST Lomami 1, Dala Kabangu, sous-prophète d'Envunaï dans le territoire de Kabinda, est suspendu préventivement de ses fonctions pour avoir remis un faux document au chef de localité d'Nkamia Majiba comme arrêté de création de l'Institut Mama Lumanu, une école déjà existante dans la sous-division de Loudimbi Lukula, qui vient d'ailleurs d'être mécanisée avec ses 21 agents. Il lui est également reproché le fait d'avoir usurpé les pouvoirs dévolus au seul directeur provincial de l'EPST en matière d'affectation des chefs d'établissement et de leurs adjoints en signant deux commissions d'affectation pour le préfet et les directeurs des études. Autre grief porté à sa charge est celui d'avoir envoyé en mission officielle les agents de son bureau sans document juridique pour percevoir illicitement 160 000 francs congolais auprès des enseignants dits « nouvelles unités ». Ce n'est pas tout. Les directeurs provinciaux de l'EPST le punit également pour avoir perçu illégalement 10 000 francs congolais auprès du chef des localités dans son bureau de travail. Contacté, le sous-provède suspendu s'est réservé de tout commentaire. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa, après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ce n'est pas le cas au site Marquinet, au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete et riverain de la rivière Ndjili. En cette période de pluie, la plupart des maisons sont inondées. Les habitants ont du mal à se déplacer et à vaquer à leurs occupations. Priscilla Badjoko s'y est rendue, voici son reportage.
Les eaux de pluie ont transformé ce quartier en une petite rivière où les habitants se déplacent par pirogue pour sortir de leur maison et atteindre la route principale. Ces inondations sont dues aux plus intenses à Kinshasa et dans la province voisine du Congo central d'où partent plusieurs ruisseaux qui alimentent la rivière Ndjili. Témoignage.
Quand la rivière déborde, nous sommes inondés. Nous sommes obligés d'utiliser les pirogues comme moyen de transport.
Ils disent se battre seuls pour trouver des solutions. Ils appellent le gouvernement à l'aide.
C'est par nos propres moyens que nous arrivons à canaliser les eaux en remplissant le sac de sable. Nous demandons à l'autorité de nous venir en aide pour canaliser ces eaux de pluie vers la rivière Ndjili.
Le bourgmestre de Matete explique que cette zone fait normalement partie de nombreuses autres non habitables à Kinshasa.
Actualité internationale.
La tempête tropicale Anna a fait 46 morts à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, où la majeure partie du pays a été privée d'électricité ces derniers jours, selon des bilans publiés mardi par les autorités de trois pays. La tempête qui s'est formée à l'est de la grande île de Madagascar a déclenché de fortes pluies provoquant inondations et glissements de terrain dans la capitale Antananarivo. Et puis, dans les dossiers ukrainiens, plusieurs voix critiques se font entendre sur la position alarmiste et parfois déstabilisante des États-Unis qui ont décidé l'évacuation de leur personnel diplomatique de Kiev alors que la situation sécuritaire en Ukraine ne l'exige pas encore.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le député national Jean-Olive Moudé-Kereza qui plaide pour l'instauration de la rigueur dans l'exécution du programme de développement des 145 territoires de la RDC. Pour cette élite du territoire de Walungu, la réussite de ce programme sera facilitée par la mise en place d'un comité local de suivi composé, selon lui, des autorités coutumières, des associations de jeunes et des femmes ainsi que de la FEC. Les députés nationaux. Jean-Olive Moudé-Kereza s'entretient ici avec Emmanuel Elamejiou Akabidi. Suivez.
Jean-Olive Moudé-Kereza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en vacances parlementaires à votre base au sud de Kivu en ce moment. Pour parler du programme de développement à la base des 145 territoires, programme du gouvernement aujourd'hui, vous êtes parmi les pionniers, je crois, pour avoir proposé avant quelques projets. Vous parlez de 10 projets prioritaires qui peuvent développer le pays à la base.
J'avais transmis ces projets depuis 2019 à mon arrivée.
En 2019.
Je l'ai encore réactualisé à 2021. Et j'avais même chiffré pour donner des prix de référence. Parce que j'en ai l'expérience. J'en connais de quoi je parle. J'avais dit, si on peut mobiliser 2,5 milliards par an, on peut réaliser...
Ce qui est faisable pour la RDC.
C'est possible.
C'est qu'avec 2,5 milliards de dollars,
on peut réhabiliter et construire 10 infrastructures de base. Et j'avais dit...
Dans chaque territoire.
Territoire. Et j'avais même dit, on peut les multiplier dans chaque groupement. Avec ça, vous pouvez construire un bâtiment servant comme bureau d'administrateur du territoire, y compris même le poste de la police rapproché. Et on peut construire un bon bâtiment de 50 000 dollars. On peut construire une école de 6 classes avec bureau, toilette, latrine, au standard et aux normes de l'UNESCO. On peut faire l'addiction ou forage, ça dépend des milliers.
De Bornefontaine.
Bornefontaine. Bornefontaine, de 10 km dans un village à 100 000 dollars. Cinquième projet. Donc, une salle polyvalente de formation à métier avec équipement minimum d'apprentissage de la main d'œuvre, de formation pour avoir des main d'œuvre qualifiées.
Pour former les jeunes.
Former les jeunes dans les villages. Nous devons avoir de la main d'œuvre qualifiée. Il faut former les jeunes. Oui. C'est l'avenir de demain. Sixième projet. Vous pouvez réhabiliter 10 km avec ouverture des pistes de route avec 150 000. Vous donnez des bêches, vous donnez des roues à la population. Allez-y au travail. Septième projet. Vous pouvez construire un micro-central hydroélectrique de 50 kW à 100 kW avec 200 000 dollars. Vous ferez des micro-centrales. Vous pouvez faire même l'interconnexion pour mettre sur la ligne de la SNL et fournir la ville de Bukavu. J'ai dit c'est possible. Le gouvernement peut le faire dans chaque groupement. On peut construire, huitième projet, un centre de santé de 20 lits avec un minimum d'équipement, avec une ambulance à 200 000 dollars. L'ambulance, vous l'achetez à 50 000. Et vous avez le bâtiment à 100 000. Parce que vous ne voulez pas faire un développement d'un pays sans être en bonne santé. Vous pouvez faire le neuvième projet. Relance de la production agricole, semences, avoir des moniteurs. Vous mettez 500 000, vous donnez des crédits rotatifs. Les femmes s'unissent ensemble, 30 personnes. Vous donnez 3 000, vous revenez dans 6 mois, vous allez voir la production. Vous allez voir comment ils ont fait des exploits. Et nous avons le 10e projet, la construction des marchés publics avec des toilettes et des latrines, avec l'abattoir dans chaque marché au village et avec un dépôt où il y a des moulets pour les femmes, un petit dépôt et des latrines.
Honorable, nous allons conclure sur ces programmes du gouvernement de développement des 145 territoires. Quelle chance vous donnez cette fois-ci à ces programmes de Samal Kondé et comment assurer le suivi pour que cette fois-ci soit la bonne, que ça réussisse?
Moi, je crois que le chef de l'État a intérêt de prendre ça à main, du suivi, de savoir comment ça évolue. Et la solution, c'est de faire des comités de pilotage au niveau de chaque territoire. Oui. Ça va être maintenant chapeauté de Kinshasa pour le suivi, oui. Mais à la base, comme le ministre des Finances avait promis que chaque mois, oui. Il va envoyer 100 000 $ par territoire. L'argent là ne peut être géré par quelques individus, pas par le gouverneur, pas par l'administrateur seulement. Il faut que les représentants des chefs de groupement, la société civile, l'AFEC, l'association des femmes et des jeunes soient impliqués avec un comité de 7 personnes dans chaque territoire. On cible quel est le projet, quel est le réel coût, vous allez voir. Ça sont des projets exceptionnels. On doit prendre aussi des mesures exceptionnelles. Et si les chefs de l'État, y compris le Premier ministre qui doivent suivre le projet et le gouvernement, si on ne les suit pas de près, ça sera le chèque. Et si on échoue à ça aussi, ça sera vraiment... Et je crois que, ce que je l'ai rencontré une seule fois, oui. C'est un homme de volonté. Il faut qu'il soit entouré, qu'il soit accompagné de réels agents de développement.
Honorable Jean-Olive Moudekereza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.